Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, le samedi 13 juillet 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Concernant l'huile de palme, la France aide l'Indonésie à lutter contre l'exploitation forestière et mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Le président Joko Widodo inaugure l'exposition créative indonésienne 2019 à Jakarta Convention Center. Le tourisme indonésien promeut dans 20 pays du Pacifique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a souligné que le Pacifique était une priorité de la politique étrangère de l'Indonésie. Trois entreprises internationales vont investir dans le pétrole et le gaz de l'offshore de Aceh. Selon l'ambassadeur du Soudan, l'Indonésie devient un modèle pour que le Soudan crée la paix. Chersami nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement français soutient les efforts du gouvernement indonésien visant à lutter contre la déforestation et mettre en œuvre les engagements contenus dans l'accord de Paris sur le climat. Concernant le problème de l'huile de palme, des pays producteurs et des pays consommateurs doivent tenter conjointement de convaincre les grandes organisations non gouvernementales et les acteurs du marché que la production d'huile de palme respecte les règles de développement durable. Cela a été déclaré par l'ambassadeur de France en Indonésie, M. Jean-Charles Bertoni, à la réception de la fête nationale française à Jakarta vendredi.
With regards to palm oil, we must work together as producer and consumer countries to convince.
Je suis fier de les efforts du gouvernement indonésien pour lutter contre la déforestation et mettre en œuvre les engagements contenus dans l'accord de Paris sur le climat. Je constate que notre société pétrolière Total a commencé à importer des dizaines de milliers de tonnes d'huile de palme certifiée pour la production de biodiesel à la raffinerie de la Mette. L'ambassadeur Bertoni a salué les 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la France. Les deux pays doivent préparer au mieux l'ordre du jour des activités de la célébration. En tant que partenaire du G20 et du Conseil de sécurité des Nations Unies, les deux pays ont de nombreuses tâches à faire dans le domaine de la sécurité, du terrorisme, du changement climatique, de l'avenir de la région Indo-Pacifique, du rôle et de la régulation de l'Internet et de la défense du multilatéralisme. Concernant la question, la France organisera en novembre le deuxième forum de la paix à Paris, auquel participera l'Indonésie. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré l'ouverture de l'exposition sur les œuvres créatives indonésiennes ou KKI 2019 à Jakarta Convention Center vendredi. Le thème de cette exposition est « Encourager la croissance économique par les micro, petites et moyennes entreprises vont exporter et passer au numérique ». Dans ses remarques, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, M. Peri Warjio, a déclaré qu'il y avait 898 micro, petites et moyennes entreprises dans 46 bureaux de la Banque d'Indonésie. Sur les 898 MPME, 173 ont reçu un financement de la banque et 71 ont déjà exporté. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, M. Tantowi Yahya, a promu le tourisme dans 20 pays de la région du Pacifique lors de la première édition du Forum du tourisme et des expositions du Pacifique à Auckland en Nouvelle-Zélande du 11 au 14 juillet 2019. Les 20 pays comprennent l'Australie, l'île Fidji, la Polynésie française, Kiribati et les îles Marshall. Dans son communiqué de presse vendredi à Jakarta, Tantowi Yahya a expliqué que l'Indonésie faisait partie du Pacifique parce que la position de l'Indonésie était géographiquement face à l'océan Pacifique. Il y a 5 provinces sur 34 en Indonésie face au Pacifique, à savoir la Papouasie, Papouasie occidentale, les Moluques, les Moluques du Nord et Timor occidental ou Nusa Tenggara Est. L'Indonésie est un grand pays qui possède des centaines de tribus, de langues, de traditions et de croyances. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, qui était le conférencier principal de l'événement, s'est félicité de la réunion des pays du Pacifique initiée par l'ambassade d'Indonésie à Wellington. L'esprit des pays du Pacifique a également été apprécié pour établir la coopération dans le secteur du tourisme. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que les pays du Pacifique constituaient l'une des priorités de la politique étrangère de l'Indonésie parce que l'Indonésie faisait partie d'une grande famille de cette zone. Retno Marsudi, à Sky City Convention Center d'Auckland, a déclaré en termes de conditions géographiques, les pays du Pacifique et l'Indonésie étaient confrontés à de nombreux défis similaires car tous les deux possédaient des petites îles dont l'un était le problème lié au changement climatique. En mars 2019, le Forum Indonésie-Pacifique du Sud est devenu le lieu où la famille du Pacifique et l'Indonésie ont commencé à discuter du potentiel de la coopération pour la première fois. Trois sociétés internationales telles que Repsol, Premier Oil et Mubadala Petroleum vont investir dans des champs de pétrole et de gaz situés en amont de l'offshore de Biren, Pidijaya et Pidi dans la province d'Aceh. Le représentant du groupe de travail spécial sur le pétrole et le gaz dans la région de Sumbagut, Yanin Collison, a déclaré que les trois sociétés internationales investiraient précisément dans les zones de travail Andaman 1, 2 et 3 situées dans les eaux du détroit de Malacca. Ahyar Rashidi, responsable des relations publiques de l'Agence de gestion du pétrole et du gaz d'Aceh, a déclaré à cette occasion que la présence des trois sociétés internationales créerait de nouveaux emplois et soutiendrait également le programme du gouvernement régional visant à réduire le chômage. L'ambassadeur de Soudan en Indonésie, El Sidik Abdulaziz Abdallah, a déclaré que l'Indonésie était un modèle pour son pays concernant la manière de créer l'union et l'unité entre les différents groupes ethniques, religion et groupe. L'ambassadeur El Sidik, cité jeudi par Antara à Jakarta, a déclaré que les différents peuples indonésiens étaient capables de maintenir l'union et l'unité et de mener des activités constructives. Le peuple indonésien crée la paix plutôt que la division et s'attire à être un modèle. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'entretien entre l'ambassadeur de France en Indonésie, Jean-Charles Bertoni, et Muhammad Suhartono de la Voix de l'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bon. Aujourd'hui, c'est la première diffusion de RRNet dans le service français. Comme d'habitude, nous diffusons par en cours ou streaming par audio. Maintenant, vous, dans quatre coins du monde, vous pouvez regarder notre émission par la télévision dans le programme de RRNet qui diffuse chaque jeudi. Comme l'ouverture de notre émission ainsi que la commémoration du 14 juillet, nous avons un invité spécial, l'ambassade de France en Indonésie, M. Jean-Charles Bertonnet. Comment allez-vous, monsieur?
Très bien, je vous remercie.
Merci beaucoup de visiter la Voix de l'Indonésie et bien sûr notre rencontre aujourd'hui dans le studio pourra donner des infos positives pour la relation indo-française. Bon, monsieur, maintenant c'est l'interview sur notre rencontre aujourd'hui. La première question, monsieur, pourriez-vous nous expliquer quel est l'essentiel de commémorer le 14 juillet?
Eh bien, le 14 juillet 1789 a commencé la Révolution française et a débouché sur la création de la République française avec sa fameuse devise « Liberté, égalité, fraternité » qui conserve toute son actualité. Et je dirais, j'ai l'habitude de dire qu'elle est aussi importante pour nous que la devise indonésienne « Unité dans la diversité » est importante pour l'Indonésie. Et donc c'est important, et c'est la raison pour laquelle nous célébrons jusqu'au plus haut niveau de l'État en France et dans toutes les ambassades de France ce 14 juillet, ce Bastille Day, comme on dit en bon français. Et je le ferai à la fin de la semaine ici à Jakarta avec beaucoup de plaisir, en recevant beaucoup d'invités indonésiens notamment et français.
Est-ce qu'il y a des fêtes spéciales en Indonésie pour commémorer le 14 juillet? Par ici, en Indonésie, pour chaque la proclamation, il y a des actions et des festivals et comme ça, surtout à Jakarta ou en France?
Alors, en France, le temps fort du 14 juillet, c'est ce qu'on appelle le défilé du 14 juillet. C'est une parade militaire sur les Champs-Élysées, une des plus importantes parades en Europe occidentale. En présence du président de la République, du corps diplomatique d'ailleurs, du gouvernement, de représentants de la société civile. Et donc tous les ans, il y a ce grand défilé. Depuis quelques années, nous invitons aussi des unités d'armée étrangères avec lesquelles nous coopérons, notamment sur les théâtres extérieurs, dans les forces de maintien de la paix, par exemple. Et pourquoi ne pas envisager un jour qu'un détachement indonésien défile sur les Champs-Élysées? Je crois que ce serait un magnifique symbole. En tout cas, voilà, ça c'est le temps fort, je dirais, un peu politico-militaire. Et puis, mais à côté de ça, vous avez des dizaines ou des centaines de célébrations dans les villes, jusque dans les plus petits villages. Avec des feux d'artifice, avec des balles, ce qu'on appelle le bal des pompiers, qui est une tradition aussi en France. Voilà. Donc c'est vraiment tout le pays, de la base jusqu'au sommet, qui communie dans ces valeurs de la République. Et puis ici en Indonésie, donc, il y a cette réception, il y en a même deux à Jakarta. Et récemment, il y a quelques jours, j'étais à Surabaya et à Bali pour des réceptions que nous avons organisées avec nos représentants sur place pour fêter le 14 juillet un peu plus tôt, mais pour fêter le 14 juillet aussi à Surabaya et à Bali.
Ok, c'est intéressant qu'il y ait des activités, ça. Et maintenant, c'est la deuxième question. Que pensez-vous à propos des relations bilatérales indo-françaises qui ont fondé peut-être il y avait plus de 60 ans ici, ce monsieur?
Alors les relations bilatérales sont bonnes, mais les ambassadeurs souhaitent toujours aller plus loin, les renforcer. C'est notre rôle, c'est notre métier, c'est notre passion, j'allais dire. Nous souhaitons les développer, notamment à travers les visites à haut niveau. C'est très important pour consolider nos relations politiques, donner de nouvelles impulsions à tous nos projets économiques ou culturels. Et donc vous savez peut-être que en mars 2017, François Hollande a fait une visite d'État ici. Depuis, il s'est passé des choses. Nous avons élu un nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Le président Jokowi vient d'être réélu pour un second mandat. Et voilà, il est temps maintenant, même s'ils se sont rencontrés encore tout récemment à Osaka, en marge du G20, mais maintenant nous souhaiterions aller un peu plus loin et avoir des échanges de visites dans nos pays respectifs. Et donc j'espère beaucoup que le président Jokowi pourra se rendre prochainement en France et que peut-être l'année prochaine, en tout cas on y travaille, le président Macron puisse faire une visite à Jakarta. Voilà, donc c'est un peu le couronnement, c'est le tâche supérieure de la fusée des relations bilatérales. Mais évidemment, derrière, il y a plein d'autres activités dont on pourra éventuellement reparler.
Est-ce qu'il y a le projet de notre président, M. Jokowi, va aller en France ?
Le président Jokowi est invité au forum, au Paris Peace Forum, au forum de Paris sur la paix, qui se tient, dont la première édition a eu lieu l'année dernière, le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour marquer notre engagement en faveur de la paix et du multilatéralisme, qui est un petit peu menacé en ce moment, le président Macron a décidé d'inviter des chefs d'État et de gouvernement de grands pays, et Dieu sait si l'Indonésie est un grand pays, à se réunir tous les ans. Et donc l'année dernière, c'était un peu difficile pour la première édition, mais nous espérons beaucoup que pour cette seconde édition, au mois de novembre, le président Jokowi pourra se rendre en France. Ce serait formidable. Je ne peux pas vous le confirmer parce que c'est compliqué, les agendas de président, on n'est jamais très sûr, totalement sûr de ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est notre souhait. Le président Jokowi est invité par le président Macron, et ce serait formidable qu'il puisse se rendre à Paris le 11 novembre prochain.
Ok. J'espère que notre président, M. Jokowi, va arriver parce qu'il aime bien cette activité. Bon, pour la troisième question, monsieur. L'Indonésie a déjà fait les sélections simultanées qui se déroulent bien. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que la France voudrait apprendre dans des sélections simultanées ?
Et c'est pourquoi pas, parce que c'est quand même un bel exploit d'avoir organisé 4 ou 5 élections, le président, les deux chambres du Parlement, les chambres régionales, tout ça en parallèle dans un pays de 270 millions d'habitants avec 190 millions d'électeurs. C'est un exploit logistique et démocratique, parce que même s'il y a eu des contestations par le perdant d'élection présidentielle, globalement, tout le monde s'accorde à dire que ces élections ont été démocratiques, transparentes, avec un fort taux de participation. Qu'on pourrait envier en France, parce que c'est difficile de mobiliser les électeurs en France, sauf peut-être pour la présidentielle. Donc voilà, oui, pourquoi pas. Je pense qu'on aurait intérêt à étudier le fonctionnement de votre système électoral, même si je sais aussi que ces élections simultanées ont fait peser une pression logistique et sur les personnes qui étaient là, qui ont dû les organiser sur le terrain, qui fait que peut-être vous allez faire évoluer le système, mais bon, je ne sais pas encore trop dans quelle direction. Mais en tout cas, félicitations au peuple indonésien. Et voilà, c'est quand même impressionnant de voir que ce grand pays, très divers, avec des religions très diverses, parvient à maintenir le cap de la démocratie. Ça, c'est le plus important.
Ok, merci de votre félicitation pour nous, pour l'Indonésie. Après l'élection simultanée, bien sûr, c'est la sélection. Pour nous aussi, c'est un peu lourd, c'est la première fois. Il y a aussi des problèmes logistiques, etc. Mais finalement, ça se déroule bien, sans. Il n'y a pas de. Comme ça. Mais s'il y a quelque chose, c'est normal, parce que c'est la première fois pour nous. Merci,
absolument,
monsieur.
Absolument.
Bon, c'est la quatrième voie, c'est l'économie. Comment est la balance économique indo-française, y compris la coopération commerciale, ainsi que l'investissement? Pourriez-vous nous expliquer, monsieur?
Alors, les échanges commerciaux entre la France et l'Indonésie tournent grosso modo autour de 3 milliards de dollars par an. Et leur caractéristique principale, c'est qu'en ce qui concerne nos exportations vers l'Indonésie, ce sont les avions. qui domine, et notamment le groupe Airbus, bien connu à travers le monde et en Indonésie. Et moi, je voyage souvent en avion dans votre pays archipélagique. Forcément, il faut beaucoup d'avions, et donc beaucoup d'Airbus, et aussi des ATR. Ce sont des avions à hélice qui permettent des liaisons à plus courte distance. Donc, les avions couvrent 70% de nos exportations. Donc à la fois c'est bien parce que ça montre que ce secteur est dynamique, et c'est un petit peu gênant parce que nos échanges sont très liés, donc tributaires de ces exportations d'avions. Il faudrait sans doute diversifier un peu plus dans les biens de consommation, les biens d'équipement, les produits agroalimentaires, même si nous exportons déjà. Je suis à la fois satisfait de l'évolution de notre commerce et surtout du succès, du très grand succès du groupe Airbus. Mais il faudrait sans doute diversifier un peu plus nos exportations.
Est-ce que la balance entre l'Indonésie et la France, c'est lié?
On revient à la considération que je viens de donner, c'est-à-dire que selon les contrats Airbus sont des contrats signés sur le très long terme, pour 10 ou 15 ans, et avec des échéanciers de livraison qui se négocient chaque année. Donc ça dépend. Quand il y a beaucoup de livraisons d'avions une année, nous sommes excédentaires. Quand ces livraisons se ralentissent pour des raisons qui tiennent à l'évolution du transport aérien ou à la santé financière de telle ou telle compagnie, à ce moment-là, on devient déficitaire. J'ai passé 3 ans ici. Il y a eu des années avec excédent, il y a eu des années avec déficit. Mais c'est extrêmement lié au volume des exportations aéronautiques.
Pour les investissements, c'est comment ça, monsieur?
Alors, les investissements français en Indonésie sont importants. Vous avez des grands groupes qui ont investi ou qui s'apprêtent à le faire, comme L'Oréal, qui a une de ses plus grandes usines, au moins d'Asie du Sud-Est, si ce n'est pas mondial, ici, dans la banlieue de Jakarta. Vous avez Michelin, qui est en train d'investir des sommes considérables sur toute la chaîne de production, depuis l'EVA, les plantations d'EVA soutenables, jusqu'à la distribution de pneus, et au milieu vous avez le caoutchouc synthétique, une très grosse usine de caoutchouc synthétique qui a été inaugurée en novembre dernier. On pourrait en citer d'autres, mais il y a pas mal d'investisseurs. Il y a évidemment Danone, qui est une marque très très connue ici, Danone Aqua, et d'autres. Donc il y a pas mal d'investisseurs. Il pourrait y en avoir plus sans doute, c'est déjà une bonne base. Moi, ce que je voudrais, c'est aussi que dans l'autre sens, il y ait plus d'investissements indonésiens en France. Il n'y a que 2 investisseurs, en l'occurrence Inarmas et Pertamina, sur des usines ou dans l'activité pétrolière. Il pourrait y en avoir plus. Et donc, avec l'ambassade, nous expliquons un peu à nos interlocuteurs que le contexte en France est porteur et que nous souhaitons avoir plus d'investisseurs indonésiens en France.
Pour l'Indonésie, les investisseurs indonésiens, qui est plus serré ou forcé dans l'investisseur en français? C'est au domaine de l'artisanat ou quoi, monsieur?
Dans les exportations indonésiennes? Alors, c'est très divers. Il y a beaucoup de produits textiles, des chaussures, qui sont un peu le point fort de l'Asie du Sud-Est en général et de l'Indonésie en l'occurrence. Donc c'est surtout cette catégorie-là qui vient à l'esprit. Vous avez le problème de l'huile de palme, donc nous en importons, mais nous en importons pour le moment indirectement à travers les Pays-Bas. Mais là, depuis cette année, grâce à un investissement de l'entreprise Total, qui a créé une nouvelle raffinerie qui fonctionne aux huiles végétales dans le sud de la France, nous commençons à importer en direct des volumes importants d'huile de palme indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Pekanbaru. Le général de brigade M. Fajar, commandant de la station militaire 031 de Riau, a donné l'information aux 10 personnes de la force opérationnelle interarmée chargée de la lutte contre les incendies de forêt et de terre à Pekanbaru récemment. À l'heure actuelle, l'armée nationale indonésienne a pour tâche de contribuer à la prévention des incendies de forêt et des incendies dans plusieurs régions d'Indonésie. Pour cette raison, un bon concept de prévention est nécessaire. Selon les statistiques, les causes des incendies de forêt et de terre causés par l'homme seraient de 99%. Par conséquent, la socialisation et les patrouilles sont les étapes appropriées et efficaces. Fajar a demandé aux soldats de l'armée nationale indonésienne de se socialiser en invitant et en modifiant le mode de pensée et la culture de la communauté lors du défrichage de terres pour l'agriculture. Il n'est pas permis d'ouvrir des terres en les brûlant sans surveillance. Ensuite, l'info de Banyumas, Java Central. Un certain nombre d'arts traditionnels ont été exposés lors du 73e anniversaire de Bayangkara organisé par la police de recours de Banyumas. Le mercredi 10 juillet, sur la place Banyumas, des groupes d'arts traditionnels, dont le roda, le barongsai et le kentongan, sont apparus. Le chef de la police de recours de Banyumas, AKBP Bambang Yudantara Salamun, a déclaré que le pic de l'anniversaire de Bayangkara avait été délibérément organisé différemment, à savoir l'apparition de l'art Banyumas en tant que divertissement tout en symbolisant la diversité culturelle de l'Indonésie. Des défilés de plusieurs écoles sont également présentés. À cette occasion, la police de recours de Banyumas a également montré sa capacité à gérer des actes de terreur. Le dernier, l'info de Bantul, Yogyakarta. Les concurrents des Bakiak se sont affrontés avec dextérité et compacité au beau milieu du temps ensoleillé au champ Trirenggo, en région Bantul, mercredi 10 juillet. Le concours de bakiak aux sandales en bois a animé l'internalisation des valeurs traditionnelles à travers les jeux traditionnels et le folklore organisé par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Les participants sont 500 élèves du primaire et du premier cycle du secondaire en région Bantul. Outre les bakiak, diverses compétitions ont été organisées telles que égrang, gasing, dakon, kasti, tulup bambu, gendiran, à bas-basan. Satrio Puji Raharjo, chef de la section expression de la culture traditionnelle du ministère de l'Éducation et de la Culture, a ouvert toute l'activité d'internalisation de la valeur de la tradition et a invité tout le public à sonner otok-otok ou jouer traditionnel en bambou. Il a insisté sur l'importance de préserver les jeux traditionnels pour inculquer les valeurs culturelles nationales à la jeune génération. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 juillet. Le 13 juillet 1930, la première Coupe du monde de la FIFA a lieu. La première compétition de football au niveau mondial étant organisée par la Fédération internationale de football, FIFA,
a eu lieu le 13 juillet 1930. L'Uruguay a été désigné comme le premier pays à accueillir la Coupe du Monde. Le concours a eu lieu du 13 au 30 juillet 1930 et a réuni 13 équipes nationales composées de 7 pays d'Amérique du Sud, de 4 pays d'Europe et de 2 pays d'Amérique du Nord. Tous les matchs de la première Coupe du Monde ont été disputés dans la capitale uruguayenne, Montevideo. La majorité des matchs ont lieu à l'Estadio Centenario, construit délibérément pour accueillir le tournoi de la Coupe du Monde. L'Uruguay, l'autre, a remporté le premier tournoi de football de la FIFA au monde. Le 13 juillet 1949, le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie prend officiellement fin. Le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, également appelé le cabinet d'urgence, est l'organisateur du gouvernement de la République d'Indonésie pour la période du 22 décembre 1948 à 13 juillet 1949, dirigé par Shafruddin Prawiranegara. Sukarno et Hatta ont été capturés par les Hollandais le 19 décembre 1948 et ils étaient exilés. Peu de temps avant leur arrestation, ils ont eu la possibilité de tenir une réunion et de donner à Shafruddin Prawiranegara le mandat de former un gouvernement intérimaire. Le 6 juillet, Sukarno et Hatta sont rentrés d'exil à Yogyakarta, capitale provisoire de la République d'Indonésie. Shafruddin Prawiranegara, président du gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, a rendu son mandat à Sukarno et a officiellement mis fin à l'existence du gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie le 13 juillet 1949. Le 13 juillet 2000, la signature de l'accord commercial bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis. Le Vietnam a une longue histoire de guerre avec les États-Unis. Après la guerre, les relations entre les deux pays se normalisèrent 2 ans après le départ de l'Amérique du Vietnam. Le 13 juillet 2000, le Vietnam et les États-Unis ont signé un accord commercial bilatéral qui a ensuite été confirmé le 10 décembre 2001. Cet accord a été marqué par un échange officiel d'accord entre les deux parties. Grâce à l'accord commercial, les exportations vietnamiennes vers les États-Unis ont fortement augmenté. Les États-Unis sont devenus le plus grand marché pour les exportations vietnamiennes en seulement 2 ans après la mise en œuvre de l'accord commercial. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Cool.
Bahulu, Tadian, menantikan pagi berlalu.
C'était la chanson intitulée Suara, ou en français, La Voix, chantée par Gehase. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et un petit titre. Le président publie une réglementation gouvernementale sur les incitations fiscales à la formation professionnelle et à la recherche. Le président Joko Widodo a signé le règlement gouvernemental, soit PP numéro 45 de 2019, concernant les modifications du règlement gouvernemental numéro 94 de 2010 concernant le calcul du revenu imposable et le remboursement de l'impôt sur le revenu de l'année en cours. Cette politique constitue la base juridique de la taxe superdéductible, soit une réduction d'impôt de plus de 100%, pouvant atteindre 300%. Rencontré mardi au Parlement à Senayan, Jakarta, le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a donné des explications au sujet du PP numéro 45-2019. Sri Mulyani a expliqué que le règlement du gouvernement serait transformé en un règlement du ministre des Finances qui réglemente plus techniquement l'octroi d'incitation fiscale. Sri Mulyani a souligné que cette politique était une aspiration du ministère de l'Industrie et des hommes d'affaires soucieux de développer la recherche, l'innovation et la formation professionnelle. Sri Mulyani espère que le règlement gouvernemental répondra aux souhaits de l'industrie et des hommes d'affaires afin que les ressources humaines disposent de compétences élevées. Cette incitation fiscale est accordée aux contribuables qui font de nouveaux investissements qui sont des industries pionnières et qui n'ont pas bénéficié de facilités fiscales. L'industrie pionnière en question est une industrie qui entretient de vastes relations, apporte une valeur ajoutée et une grande externalité. En outre, introduire de nouvelles technologies et avoir des valeurs stratégiques pour l'économie nationale. Pour ce critère, un incitatif fiscal est donné sous la forme d'une réduction du revenu net de 60% du total des investissements sous la forme d'immobilisation corporelle, y compris des terrains utilisés pour des activités commerciales. Pour les entreprises qui organisent des pratiques de travail et des activités d'apprentissage, le pseudonyme de professionnel peut bénéficier d'une réduction de revenus bruts d'au plus 200% du coût total des activités de travail, d'apprentissage et ou d'apprentissage. Les contribuables nationaux qui mènent certaines activités de recherche et de développement en Indonésie bénéficient de facilités fiscales similaires. Les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction de revenus bruts de plus 300% des coûts totaux engagés pour certaines activités de recherche et de développement en Indonésie qui sont amputées sur une certaine période. Shinta Kamdani, vice-président du Conseil national de direction de l'Association des employeurs indonésiens, s'est félicité de la publication du règlement gouvernemental numéro 45 de 2019. Selon elle, la taxe super-déductible vise à développer des industries manufacturières de grande valeur nécessitant une main-d'œuvre qualifiée et des recherches intensives et chères. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Reunia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous. Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous sur la fréquence de 3,3 de 5 kHz. Et vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant la plage Biluhu à Gorontalo. Gorontalo possède plusieurs objets de tourisme maritime bien connus, dont la plage Biluhu, située dans le village Biluhu Timur, district Batu Da'a Pantai, en région Gorontalo. Bien que la plage Biluhu soit isolée, elle se trouve à environ 20 km du centre de Gorontalo, mais cette plage a une beauté enchanteresse. Il est situé loin de la foule, mais a une belle atmosphère. Il convient aux personnes qui veulent se calmer et éliminer l'ennui et la fatigue de leur routine quotidienne. Le faible bruit du chant des oiseaux est parfois suivi du son de Macaca fasciculares. En outre, il est également animé par un essaim de corbeaux et d'aigles de mer qui se croisent occasionnellement, vous faisant sentir longtemps chez vous à la plage Biluhu. Surtout, ici aussi, l'hébergement est disponible avec des prix à partir de 150 000 rupiahs par nuit. Ce que propose la plage Biluhu, c'est sa beauté sous-marine, des récifs coralliens colorés sous une forme très tentante, en particulier pour les amateurs de plongée en apnée et de plongée. Certains mois, les vagues dans la baie Tomini ne sont pas trop hautes, donc la plongée en apnée et la plongée sur la plage Biluhu sont très agréables. En outre, la plage unique qui fait partie de la baie Tomini présente des falaises atteignant environ 100 mètres. La falaise se trouve à environ 200 mètres de rivage. La beauté de la plage sera encore plus complète avec des centaines de cocotiers qui se dressent sur une étendue de sable blanc. Pour ceux qui aiment se baigner dans la mer, les vagues sur la plage, relativement calme de la plage Biluhu, sont très tentantes. Dans l'après-midi, l'atmosphère est plus charmante, plus le reflet de la lumière du soleil sur la surface de la mer. Il y a trois fois pour aller à la plage Biluhu. La première consiste à utiliser une voiture ou une moto au village Bongo dans le district Batu Da'a Pantai. La deuxième option passait par le village Barakati qui se trouve également dans le district Batu Da'a Pantai. Ce dernier est par mer en utilisant un bateau ketinting ou en utilisant un hors-bord. Le prix de la location d'un bateau ketinting d'une capacité de 5 à 7 personnes est de 200 000 à 300 000 rupiahs et le lieu de son départ du village Bongo. Le trajet en bateau ketinting dure environ 30 minutes. Si vous utilisez un hors-bord d'une capacité de 15 personnes, le loyer est 1 million rupiah. Le trajet en bateau rapide depuis le port Ternate à la ville Gorontalo prend environ 20 minutes. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur la présidente de Singapour qui récompense les responsables scouts indonésiens. La présidente de Singapour, Halimah Yacob, a remis un prix à la direction principale du quartier national du mouvement scout indonésien, Brata Triana Harjo Subroto. La présidente de Singapour, en tant que chef scout de Singapore Scout Association, a donné un prix Distinguished Service Award. Le prix a été remis au palais présidentiel de Singapour mercredi. La présidente de Singapour a également remis des prix à 40 personnes, dont deux de l'étranger, à savoir Brata de l'Indonésie et Haji Yaakob bin Abdul Karim de Scouts Malaysia. Brata Harjo Subroto a reçu un prix pour avoir été considéré comme dédié à la croissance et au développement du mouvement scout, tant régional que mondial. Brata est également considéré comme une source d'inspiration pour les scouts de Singapour. La présidente Halimah a expliqué que le scoutisme avait développé les valeurs de résilience et d'engagement de la personne. Halimah espère que les scouts inspirent de nombreuses personnes et peuvent continuer à apporter des avantages à la communauté dans son ensemble. À cette occasion, Brata, étant également secrétaire général adjoint de l'Association des scouts de l'ASEAN, ASARC, a exprimé sa gratitude pour ce prix et espéré de pouvoir inspirer la jeune génération d'Indonésie à servir sincèrement le pays et la nation. Ce prix de la présidente de Singapour n'est pas le premier prix international attribué à Brata. L'année dernière, les scouts de Selangor en Malaisie lui ont remis l'étoile d'or, un signe d'honneur dans le cadre du 100e anniversaire des scouts de Selangor. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée Biola Kaca, ou en français violon en verre. Cette chanson raconte des souvenirs passés. Le souche du violon lui rappelait sa bien-aimée qui avait chanté une belle chanson de Kroncong. Tout est maintenant un souvenir. Les paroles de cette chanson sont fermées par un merci à la main et par un adieu pour le violon en verre. Et voici Trino Vianti, dont le titre est Biola Kaca, ou en français le violon en verre. Bonne écoute!
Teringat masa yang
l'émission quotidienne en français pour ce soir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook The Voice of Indonesia. Et rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt!